Selon le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade, il y a environ 100 décès associés à la navigation au Canada chaque année et 80 % des personnes décédées dans ces incidents associés à la navigation ne portaient pas de gilet de sauvetage. Pour nous expliquer, nous démêler tout ça, M. Roch Antil est agent de développement de la sécurité nautique. Il est avec nous pour nous faire part aussi de bonnes pratiques à adopter sur l'eau. M. Antil, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Ça va très bien. Juste avant de commencer, M. Antil, peut-être juste un peu démêler les choses parce que il existe deux semaines de sécurité nautique. Il y en a une dans l'ensemble du Canada qui est au mois de mai, mais là, à partir du 12 juin, c'est celle uniquement pour la province du Québec. C'est exact?
Oui, tout à fait. Vous avez raison. Il y a effectivement la Semaine nationale de la sécurité nautique qui est pour l'ensemble du pays, qui se déroule au mois de mai de chaque année. Par contre, au fil des ans, on s'est rendu compte qu'au Québec, au mois de mai, habituellement, on s'entend que cette année, c'est différent, là, mais de façon habituelle, au mois de mai, les bateaux sont pas encore à l'eau, les marinas sont pas ouvertes. Donc, de faire une semaine de la sécurité nautique nous semblait pas avoir beaucoup de sens au niveau de la province de Québec. Donc, il y a quelques années déjà, sous l'initiative du Bureau de la sécurité nautique de Transport Canada et avec de nombreux partenaires en nautisme de plaisance, on a lancé la semaine québécoise de la sécurité nautique de façon à ce que ce soit beaucoup plus proche du début de la saison du nautisme, mais également de la saison des vacances d'été, de la Saint-Jean. Donc, que ce soit plus propice pour passer le message là, de sécurité nautique aux Québécois plaisanciers.
Si on se réfère au rapport d'essai social à la navigation de plaisance au Canada de 2008 à 2017, on peut vraiment voir que la province de Québec est surreprésentée. Comment on peut faire pour changer cette situation?
Ben, c'est d'en parler et vous nous offrez une excellente plateforme ce matin pour passer le message et je tiens à vous remercier au nom de Transport Canada. Ça nous permet de rejoindre nos auditeurs et il y a également plein de nos partenaires qui sont présents sur les cours d'eau. On a des agents de l'autorité, que ce soit les patrouilles nautiques, là, des corps policiers, de la GRC ou encore d'autres agents approuvés par le ministère. Il faut en parler, il faut se vérifier soi-même, faut pas poser des questions, faut saisir. On s'entend que le nautisme de plaisance au Canada et au Québec, c'est une responsabilité partagée, c'est-à-dire que oui, il y a des règlements, oui, il y a des équipements obligatoires à bord, dont le vêtement de flottaison, mais on s'attend aussi à ce que le plaisancier, d'une année à l'autre, se remette à jour dans ses connaissances, aille plus loin, prennent des cours, s'informent, posent des questions, rejoignent des groupes sur les médias sociaux. On sait que c'est très en vogue ces dernières années. Il y a des groupes là sur les médias sociaux et s'échangent des trucs, s'échangent des façons de faire. Et je pense que la première chose que les gens devraient adopter comme comportement, c'est de porter le vêtement de flottaison individuel, de pas juste l'avoir à bord, parce qu'on sait que la réglementation stipule que c'est obligatoire d'avoir le même nombre de vestes de flottaison que de passagers à bord d'une embarcation. Mais je pense qu'une veste de flottaison est utile seulement lorsqu'on la porte et lorsqu'on est près de l'eau et à bord des embarcations. Et si j'inclus les embarcations à propulsion humaine également, donc la planche à pagaie, souvent on voit les gens, ils vont mettre leur veste de flottaison là sous les élastiques devant eux parce que c'est le fun d'avoir un beau bronzage intégral, mais je pense qu'entre un bronzage et la vie, la question se pose même pas. Mm-hmm. Et il faut le porter. Une veste de flottaison qui n'est pas portée, j'irais jusqu'à dire personnellement que ça sert à rien.
On a parfois l'impression que les... en fait, je sais pas si ça paraît dans vos statistiques, mais ce qu'on rapporte comme accident, parfois, on a l'impression que ce sont les personnes qui nous visitent qui sont parfois victimes parce que, justement, il y a un mauvais usage. Ils ne connaissent pas nécessairement les bons comportements adoptés sur les cours d'eau. Est-ce qu'il y a des campagnes qui sont orientées un petit peu plus vers les touristes?
À ma connaissance, pas particulièrement. Par contre, selon ce que nos statistiques démontrent, c'est que malheureusement, c'est les hommes de ma tranche d'âge qui sont le plus souvent victimes de décès parce qu'ils ne portent pas ou ne portent pas bien la veste de flottaison. Donc, on parle ici là de 45 ans et plus. Et souvent, je vais parler par expérience personnelle ici. Les hommes de mon âge ont tendance à s'assurer que tout le monde est correct, tout le monde porte la veste, tout le monde est bien sécuritaire. Et nous, on n'a pas besoin. Nous, on est correct. Ça fait longtemps qu'on fait ça, vous savez. Ça fait qu'on n'a pas besoin de porter la veste, nous, ou on l'oublie carrément. Et malheureusement, d'année en année, depuis au moins les 15-20 dernières années, c'est le groupe de personnes qui représente le plus haut taux de décès année après année.
C'est où qu'on peut retrouver, malheureusement, le plus grand nombre de noyades ou d'incidents ou que les gens sont plus à risque que ça se produise? Est-ce que c'est dans les lacs, les rivières, les piscines, ou c'est vraiment du cas par cas, ça change d'année en année?
C'est vraiment du cas par cas. On tient les statistiques ici avec les corps policiers partenaires de façon à savoir quelle région est plus touchée, dans quelle situation, quel type d'embarcation, est-ce que les gens portent leur veste de flottaison diesel ou pas. Et d'une année à l'autre, ça varie extrêmement. Bien entendu, ça va habituellement en fonction du nombre de plaisanciers. Donc, tout ce qui est près du fleuve ou sur le fleuve Saint-Laurent, il y a un grand nombre de plaisanciers. Mais ça arrive également là, sur des plans d'eau intérieurs, sur des lacs, sur des rivières. Il n'y a pas de profil en particulier par rapport aux endroits où ça se produit. C'est vraiment très varié et ça change de chaque année.
En terminant, M. Antil, à quel endroit est-ce qu'on pourrait revoir ces conseils-là? Il y a des gens qui nous écoutent peut-être d'une oreille là, parce qu'ils sont en train de conduire, il y a des enfants dans l'auto, peu importe, puis on se dit, hey, je vais aller revoir ça, ces notions-là. À quel endroit en ligne on pourrait aller voir ces conseils-là?
Bien, j'invite tous les gens là, à consulter le guide de la sécurité nautique qu'on peut retrouver sur le site du Bureau de la sécurité nautique de Transport Canada. La meilleure façon de le trouver, c'est d'utiliser un furteur commun, là, un furteur connu, de faire une recherche sur Internet avec Transport Canada, guide de la sécurité nautique, et vous allez avoir accès aux documents. Et là, il y a une tonne d'informations. Vous avez également un tableau qui regroupe l'ensemble des équipements obligatoires à bord des embarcations selon le type et selon la longueur de l'embarcation. Donc, de la planche à pagaie jusqu'au voilier, jusqu'au gros bateau à moteur. Vous allez avoir toutes les informations par rapport aux équipements nécessaires. Également, vous allez avoir plein de choses sur comment se préparer avant de sortir sur l'eau. Là, on a parlé du VFI, mais il y a beaucoup de choses à vérifier. Tous les équipements qui doivent être à bord de façon obligatoire, mais est-ce qu'on les connaît? Où est-ce qu'ils sont placés, nos équipements? Est-ce qu'on les a déjà essayés pour voir comment ils réagissent, comme la corde, la ligne d'attrape, par exemple? Est-ce qu'on l'a déjà lancé sur le gazon pour voir est-ce qu'elle reste boudinée ou bien elle s'étire vraiment de tout son long? Donc ça, c'est des choses à faire avant en début de saison. S'assurer que les piles fonctionnent dans notre lampe de poche étanche. Vérifier la météo avant toutes les sorties. Laisser un message à quelqu'un qui reste à terre pour dire, bon, on s'en va sur l'eau, on part vers telle heure, okay. On s'en va dans telle direction, on prévoit revenir vers telle heure. Et également, s'assurer que les gens ont la carte de compétence de conducteur d'embarcation de plaisance. Les gens appellent souvent le permis bateau. Là. Mais ça, c'est la carte de compétence, la preuve de compétence. C'est important. Ça donne des informations, des connaissances de base. On s'attend toutefois à ce que les gens aillent plus loin et aillent s'informer plus que la base, mais ça donne quand même un minimum d'informations. Et bien entendu, c'est toujours agréable avec des amis ou avec la famille là, de prendre un petit breuvage alcoolisé ou certains vont utiliser la fumée. Mais on recommande encore une fois de faire attention parce que les effets sont multipliés par 3 bien souvent sur l'eau avec le vent et la réflexion du soleil. Donc, soyez sobre, profitez de la sortie en bateau, assurez votre sécurité, la sécurité de vos passagers, soyez courtois avec les autres plaisanciers et lorsque vous revenez après votre excursion, ben, profitez-en peut-être pour prendre une bière ou un verre de vin, mais idéalement, naviguez sobre et prenez toutes les précautions nécessaires pour revenir en santé et en même temps avoir du plaisir sur l'eau.
Roch Antil est agent de développement de la sécurité nautique. Un immense merci de tous ces renseignements.
C'est moi qui vous remercie et je souhaite à tout le monde une excellente saison nautique avec prudence et beaucoup de plaisir.
Merci.